deux hommes en onde. Voici La Voix en or. Luc Lavoie.
Le prof Lavoie.
Le prof Lavoie.
Le monde entier souligne cette semaine le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Cet événement-là a été le prélude de la réunification de l'Allemagne, mais aussi de la chute du bloc communiste en entier. Et prof Lavoie est avec nous pour nous rafraîchir la mémoire sur ces événements-là. Bonjour Luc!
Salut, comment ça va?
Ça va bien toi?
Pas mal.
Le mur a retenu 28 ans, de 61 à 89. C'est Gorbatchev qui était à la tête de l'URSS lorsque la brèche a été ouverte. Peux-tu nous rappeler un peu les facteurs qui ont mené à cette chute du mur-là en novembre 89?
Ouais, mais je pense qu'il faut un peu aller en arrière pour comprendre, n'est-ce pas? 1945, la guerre finie et Berlin, qui était le but ultime des Alliés,
ouais,
est pris par l'armée rouge soviétique, n'est pas pris par les forces occidentales. Alors l'armée rouge s'installe à demeure, c'est une occupation militaire complète. Et ultimement, en vertu des accords de Yalta qui avaient été négociés entre Staline, Roosevelt... Voyons, j'oublie les autres. Staline, Roosevelt, Winston Churchill. Ouais. C'était les trois principaux qui étaient là. De Gaulle n'était pas encore là. Il s'est retrouvé avec eux à Potsdam quelques mois plus tard. Mais en vertu des accords de Yalta, où ils se sont divisés l'Europe au lendemain de la guerre, mm-hmm, Berlin, d'abord l'Allemagne devait être divisée en quatre zones d'occupation. Une française, une britannique, une soviétique et une américaine. Et à l'intérieur de ça, Berlin devait devenir une zone qui ne faisait pas partie de la souveraineté de l'Allemagne. On était aussi dans une Allemagne qui était occupée. Rapidement, Berlin, il y a eu une entente et les Soviétiques ont gardé à peu près 50% du territoire de Berlin. Puis ils ont dit aux trois autres puissances, arrangez-vous avec le reste de la ville. Et ce qu'ils ont gardé, en passant, les Soviétiques, c'est ce qui était le cœur de Berlin. Le vrai cœur historique de Berlin, ça faisait partie de Berlin-Est. Et là, ils se sont installés à demeure. Il faut aussi se souvenir que Berlin, c'est une enclave au sein de l'Allemagne
exact.
De l'Est. Et que donc, ça prenait un corridor pour y aller et en revenir. Et là, le ton a monté entre les Soviétiques, les ex-alliés et le reste du monde occidental. Et Staline a ordonné en 1949 ce qu'on a appelé le blocus de Berlin, c'est-à-dire qu'il a coupé tous les accès au monde occidental vers Berlin, et les Américains ont décidé qu'ils se laisseraient pas faire, alors ils ont lancé ce qu'on a appelé le pont aérien, qui a duré presque un an et demi de temps, où il y avait des avions qui atterrissaient à toutes les cinq minutes pour approvisionner les gens. Alors, quand est arrivé le moment où le mur a été construit, c'était quoi le problème qu'avaient les Soviétiques? Le problème était simple. Les gens ne voulaient pas vivre en République démocratique allemande et la ville n'avait pas de barrière d'un côté à l'autre. Alors les gens traversaient en masse vers la République fédérale allemande pour se tenir loin des régimes soviétiques. Il y en a 3 millions qui ont traversé. Et en fait, c'est devenu une crise économique parce que tous les travailleurs qualifiés, tous ceux qui avaient du talent pour avoir du travail, ils s'en allaient tous en République fédérale allemande. Alors, à la surprise du monde entier, dans la nuit du 12 au 13 août 61, ils ont érigé un mur. C'est abracadabrant, c'est hallucinant. Moi, j'ai eu la chance, Jean-François,
oui,
d'être à Berlin au moment où le mur était là, c'est-à-dire à peu près un mois et demi avant qu'il tombe, et d'être retourné à Berlin quelque chose comme à peu près un mois après la chute, trois semaines après la chute du mur de Berlin. Alors, quand je l'avais vu un mois avant, personne ne prévoyait qu'elle allait tomber, bien qu'à ce moment-là, ça brassait aux frontières. La Hongrie venait d'ouvrir sa frontière, laissait ses citoyens sortir. La Pologne commençait à faire la même chose. Okay. Et t'avais Gorbatchev qui en avait marre des régimes de vieux schnock communistes classiques, dont Erich Honecker, qui était un des plus célèbres en République démocratique allemande. Et il a commencé à leur serrer la vis pas mal sérieusement. Et puis, à un moment donné, Gorbatchev est allé à Berlin, où il y avait déjà commencé à y avoir des manifestations dans diverses villes de l'Allemagne de l'Est, Leipzig, entre autres, et plusieurs autres. Et à un moment donné, il a sacré Honecker dehors. Il a dit « ça peut plus durer, ce régime-là ». Et puis, à un moment donné, le mur de Berlin, vraiment, tout le monde a été pris, mais totalement par surprise. Le mur est tombé. La ville s'est réouverte et mon expérience, ma chance de l'avoir vu m'a fait comprendre une chose. Mm-hmm. Avant de le voir, je ne savais pas. c'est que quand ils ont construit ce mur-là, là, ils se sont mis absolument pas préoccupés des infrastructures. Par exemple, la principale ligne de métro a été coupée en deux, ils ont construit un mur.
OK, ils passent là, ils passent là, ils s'arrangeront après.
Ça finit là. Il y a même des édifices qui étaient, par exemple, des écoles ou des couvents religieux. Le mur passait en plein milieu. Ils ont passé en plein milieu. Tu sais, c'est comme... Ça n'avait aucun sens. C'est comme si tu passais un mur, moi, je sais pas, prenons à Québec, la rue Cartier, tiens. On prend un mur, puis on descend, on va jusqu'au nord, puis that's it. Puis tout le reste, là, on s'en balance. Tout ce qu'il y a de circulation autour, que ce soit Champlain, en Laurier, en haut, est fini. Alors, la ville s'est retrouvée, mais complètement paralysée. Et la ville, qui était Berlin-Ouest, qui était donc la ville du côté des Occidentaux, est devenue ce que les Américains et les Occidentaux ont appelé un showcase, comme pour impressionner les Allemands de l'Est, qui, quand ils étaient dans des édifices de 4-5 étages de haut, pouvaient voir Berlin-Ouest.
Ils voyaient la vitrine de l'économie de marché, comment ça allait bien pour nous, là.
Et on en mettait, OK? Il y avait un fameux magasin, moi je l'ai vu avant la chute du mur de Berlin, qui s'appelait KDV. C'était le magasin le plus... le commerce, le magasin à rayon le plus ostentatoire que le monde a jamais vu. Je veux dire, c'était tellement flashé.
Bling, bling.
Il y avait tellement des affaires qui brillaient puis qui scintillaient de toutes les façons. Ça rendait les Allemands de l'Est fous. En plus, les Allemands de l'Est, ceux de Berlin-Est, ils pouvaient capter la télévision allemande, ils pouvaient capter la radio de l'Allemagne de l'Ouest. Et là, t'as eu toutes les... Berlin est devenu le centre mondial de l'espionnage. Berlin-Ouest était une drôle de ville parce que tout ce qui était le cœur de Berlin était de l'autre bord, du côté de l'Est. C'était une ville qui n'en était pas complètement une. Et à un moment donné, le mur tombe, et puis personne ne sait quoi faire, personne n'est préparé à ça. C'est d'abord la fête et tout ce que tu veux. Et après ça, ben, ça, s'il y a eu comme un brutal réveil, là, les gens ont pu pénétrer en Allemagne de l'Est puis voir l'ampleur de la catastrophe que ce régime-là avait laissé derrière lui, de pollution, puis de pourriture, puis de désuétude, puis de tout ce que tu veux, ça a amené à la réunification de l'Allemagne en 1990, et on considère généralement que cet événement, la chute du mur de Berlin, c'est la coupure, c'est la fin de la guerre froide. Et des historiens vous diront aujourd'hui, c'est la fin d'un cycle de guerre qui a commencé en 1914 avec la Première Guerre mondiale et qui s'est terminé en 1989 avec la chute du mur de Berlin, avec des hauts et des bas. Il y a eu 20 ans de paix relative entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu une sorte de paix également relative, mais où les forces se faisaient face. J'ai eu aussi cette chance à un moment donné d'aller sur la frontière entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie, entre l'Allemagne de l'Ouest et la Tchécoslovaquie, qui était à l'époque un seul même et même pays, où t'avais d'un côté, t'avais littéralement comme un fossé là, assez profond, des clôtures barbelées. D'un côté, t'avais 2000 chars d'assaut occidentaux, puis de l'autre, t'en avais 2000 soviétiques. Ils étaient nez à nez avec leurs canons qui se faisaient face, qui étaient prêts, sur un coup de doigt, à se lancer à l'assaut. Alors, cette guerre-là, qui se jouait de toutes sortes de façons, on dit qu'elle a pris fin en 1989. Je suis retourné à Berlin depuis... je peux te raconter une anecdote lors de la visite que j'ai faite en décembre 89. Écoute, un des problèmes qui s'est posé lorsque le mur de Berlin est tombé, c'est un problème qui s'est posé essentiellement aux Soviétiques, c'est qu'il y avait 300 000 troupes soviétiques qui était sur la frontière, pas sur la frontière, comme à la limite périphérique de Berlin-Est. 300 000, là, c'est comme une ville, cette affaire-là. Et si on devait les rapatrier en Union soviétique, il n'y avait pas de baraque pour les accueillir, il n'y avait pas d'argent.
On les met où? On fait quoi avec?
Et pendant un temps, ils ne savaient plus quoi faire avec. Et les soldats eux-mêmes se disaient, ben là, on nous payait autrefois en marque d'Allemagne de l'Est.
Deutsche Mark, ouais.
Mais le Deutsche Mark, qui est de la République fédérale, l'autre côté, il portait un autre nom, je sais pas quoi, mais c'était le Mark quand même. À un moment donné, ça valait plus rien, cette monnaie-là, du jour au lendemain. Et les soldats servaient plus à rien, parce que le mur, là, il y avait 14 000 gardes tout le long du mur, armés, puis ils tiraient à vue sur n'importe qui voulait le traverser. Il y a eu quelques centaines de morts qui sont morts de cette façon-là. Alors, quand moi, je suis allé, il restait, grosso modo, 85 % du mur, puis il y avait des brèches un peu partout, parce qu'à l'heure actuelle, il en reste pratiquement pas, sauf un petit bout de monument. Là.
C'est devenu des attractions touristiques. Là. Je me souviens, je suis allé en 2012, puis Checkpoint Charlie, qui était un des principaux passages entre
c'est le passage.
C'est rendu, il y a un McDonald's, puis il y a deux, trois babioles de touristes. J'ai trouvé ça déprimant à mort. C'est un lieu important pour l'histoire du 20e siècle, puis ils ont fait un Disneyland avec
alors,
ça.
Alors, un soir que j'étais donc à Berlin avec le consul général du Canada à Berlin, un gars qui s'appelait Gary Smith, je pense qu'il est à la retraite maintenant, on avait pris un repas plutôt bien arrosé, disons. Puis on est parti marcher, j'ai dit là, je vais aller l'autre côté, je vais aller dans l'est. Alors, on passe à travers d'une des brèches, puis qu'est-ce qu'on trouve l'autre côté? Plein de soldats soviétiques dans leur espèce de Lada, puis ces voitures-là, qui vendaient tout. OK? Ils vendaient tout.
Débranche les démos.
Non, on vendait les jumelles, on vendait les uniformes, on vendait les chapeaux, on vendait les gants, on vendait les boussoles et on vendait les kalachnikovs. Et là, ils t'approchaient d'eux, ils ouvraient le coffre arrière des voitures, puis là, t'avais le choix. Qu'est-ce que tu veux? Alors, moi, dans un état... disons que je qualifierais pas, j'irais pas plus loin, disons qu'on avait bien arrosé la fin.
Oui.
J'ai acheté une kalachnikov. Okay.
T'as-tu encore ça?
Ben non, je l'ai acheté, ça m'a coûté 25$.
On a la ramené au pays.
Là, je suis parti, puis je marchais en direction de mon hôtel, c'était un Hilton du côté de Berlin-Ouest.
Avec la kalachnikov.
Quand j'ai approché de l'hôtel, il est sorti des gardes, ils m'ont sacré à terre, comprends-tu? Là, j'ai dit, mais il faut qu'on se calme, les enfants. Là, tu sais, moi, je voulais juste m'acheter un petit souvenir. Oui, j'avais une kalachnikov. Mais quand même, j'ai acheté des chapeaux de l'Allemagne de l'Est, des chapeaux de l'armée. J'ai toutes sortes de bébelles aussi. Et le summum, c'est quand j'y suis retourné. Ben, à peu près dans ce même voyage-là, oui. On était à Dresden, tu sais, le Dresde. Oui. La ville qui a été détruite là, par les bombardements britanniques, la ville historique. Et on était dans une espèce de bar. Tout était mal famé, là-bas. Tout était tout croche. Et là, j'étais en train de parler des voitures Brabant. Ça, c'est ces affreuses voitures construites en Allemagne de l'Est qui étaient construites en fibre de verre, qui avaient des moteurs deux temps. Tu vois, de la boucane bleue qui sortait derrière. Une suspension complètement ridicule, mais c'était le véhicule. Alors moi, je trouvais que c'était historique, ce véhicule-là. Fait que je dis ça au waiter, qui parlait un peu anglais. Ouais. J'ai dit, il dit, j'en ai un, le veux-tu? Là, j'ai dit, ben là, je veux le dire, bien sûr que je le veux! Alors, là, le gars, il me donne ses clés, il dit, va l'essayer, je vais essayer ça. Écoute, c'est un tape-cul, ça n'a pas de bon sens, ça va tout croche. J'en viens, j'ai dit, c'est un des véhicules les plus intéressants. Combien tu veux pour ça? Il voulait 100$, j'y achète. Alors là, j'ai fait toutes les démarches que tu peux imaginer pour la faire venir au Canada. Écoute, tu t'es rendu, je pense que ça m'a coûté 7 000-8 000$ pour la faire venir. Fait que j'ai aucune idée ce qui est arrivé à ma Trabant. Ma Trabant est installée dans un... Je sais pas si elle est encore dans le même parking, là, ou je sais pas quoi. Ils ont dû la... Alors, l'Allemagne, aujourd'hui, est un pays réunifié où règne encore des divisions basées sur cette époque-là. Mais si tu veux mon avis, pour avoir été souvent en Allemagne... Mm-hmm. C'est beaucoup exagéré, tout ça. C'est... Évidemment, l'Allemagne de l'Ouest a investi 100 milliards instantanément dans les années qui ont suivi pour construire, pour mettre des infrastructures à niveau, ouais. Des autoroutes, des aqueducs, des égouts, des tout ce que tu veux. Puis à un moment donné, ils ont fini par être presque égaux. Ils ne le sont pas complètement. Mais ce qui est triste, c'est que dans l'ancienne Allemagne de l'Est, où on avait été habitué à des régimes autoritaires. Aujourd'hui, on voit l'extrême droite néo-nazie refaire surface. C'est dans cette région-là qu'on les voit renaître. L'Allemagne est redevenue maintenant la puissance qu'elle a été à l'époque. 90 millions d'habitants, moteur économique de l'Europe, et en même temps, une zone assez trouble à l'heure actuelle. Pour des raisons politiques.
Merci beaucoup, Luc, pour le cours et les souvenirs. Je savais pas que tu avais été propriétaire d'une Kalachnikov.
Maintenant... Pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure.
Je sais pas pourquoi, mais j'aurais payé pour assister à la scène.
Ma Kalachnikov, j'étais couché sur le ventre, comprends-tu, devant l'hôtel, puis où est-ce que vous allez? What's going on here? Hey, come on, là, on se calme. Je suis acheté une Kalachnikov, il me l'a vendu pas cher.
Merci, Luc, à la semaine prochaine.
Bye-bye. Salut.